Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Priorité à l'information sur Europe 1. Hier, nous avons renoncé à notre rendez-vous au cœur de l'histoire. Mais Franck Ferrand est de retour cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline. Bonjour à tous. Alors évidemment, nous restons disponibles et nous repasserons l'antenne à la rédaction si la moindre nouvelle survient dans les minutes qui viennent. C'est évident. Hier, nous étions le 7 janvier. Je n'ai pas besoin de vous le préciser. C'est une date que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Or, ce 7 janvier était le jour du tricentenaire de la mort de Fénelon. Nous y reviendrons dès la semaine prochaine puisque je vous propose un rendez-vous, ce sera vendredi 16 janvier, pour un hommage à ce grand personnage. On vous en parlera quand même de Fénelon, évidemment. Aujourd'hui, nous allons faire l'émission qui était programmée, mais avant cela, j'aimerais répondre aux très nombreux auditeurs qui nous ont demandé une émission spéciale. Eh bien, cette émission, elle aura lieu lundi prochain, le 12, et nous la consacrerons aux libres penseurs, évidemment, aux enfants de Voltaire, comme j'aime à les appeler. Vous savez, on me demande souvent à quoi sert l'histoire. Eh bien, entre autres mérites, ça sert à prendre la mesure d'un drame comme celui-ci. Nous verrons que la libre pensée est un des apports de la France à l'histoire universelle.
Et puis aujourd'hui, vous avez invité Claude Quettel qui vient de diriger avec Jean-Christophe Brizard un ouvrage sur les enfants de dictateurs.
Et ça tombe bien, ils sont tous les deux dans ce studio avec nous. Un sujet qui, comme je le disais à Wendy il y a quelques instants, réserve un certain nombre de surprises, y compris dans les archives d'Europe 1, vous allez l'entendre. Pour lancer le sujet, je vais évoquer la figure insolite de Svetlana, la fille de Staline.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Louise. Elle souhaite connaître l'origine des termes désignant la couleur de la robe des chevaux.
Les chevaux, pie, baie, alzan, Isabelle. Tiens, on verra d'où ça vient, la couleur Isabelle. Pour le moment, nous partons pour la Russie soviétique, la Russie de Staline.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ça n'est sûrement pas une chose banale que de naître dans l'enceinte du Kremlin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Céline, d'aller déjà au Kremlin. Non. Cette extraordinaire forteresse qui domine littéralement Moscou avec tous ces bâtiments tous plus étonnants les uns que les autres. Eh bien, c'est dans l'enceinte du Kremlin que va naître la toute petite fille, on va dire, dont nous allons parler aujourd'hui, Svetlana. Svetlana, en russe, ça veut dire la jolie lumière. Elle naît dans la polyclinique spéciale qui est située à l'intérieur donc de la forteresse rouge. C'est le docteur Vera Bronch-Brujevich qui va procéder à l'accouchement. Cette dame n'est pas n'importe qui, c'est la femme de l'ancien secrétaire de Lénine, figurez-vous. Et d'ailleurs, elle va avoir quelques déboires parce qu'il semblerait qu'elle n'ait pas été très discrète ensuite, qu'elle ait dit un peu ce qui s'était passé pendant l'accouchement. Vous savez, on est à une époque où est en train de s'installer la terreur sur la Russie. Ça, c'est important de voir la date. Nous sommes le 28 février 1926, c'est-à-dire pas très longtemps avant la mort de Lénine. Staline, à l'époque, est déjà l'homme fort, bien entendu. Il est secrétaire général du comité central du Parti communiste de Russie depuis 1922. Et c'est cette époque où les choses sont en train de mal tourner, si je puis dire. Beaucoup plus tard, bien après la mort de son père Staline en 1953, une amie de Svetlana lui dira comme ça pour plaisanter « Ah toi, tu es née en 1926, tu es une fille de la terreur ». Et c'est une phrase qui avait particulièrement marqué Svetlana parce qu'évidemment, elle peut être prise à plusieurs sens, elle est à plusieurs entrées cette phrase. Svetlana est la fille, alors bon, bien sûr qu'elle est la fille de Joseph Staline, ça incontestablement, mais elle est surtout la fille de sa deuxième épouse. Il faut vous dire qu'il avait déjà eu une première épouse, Ekaterina, qui était morte du typhus en 1907, ce qui a joué un rôle important parce que sans doute que la carrière et la vie de celui qu'on appelle Staline n'auraient été différentes s'il n'avait pas perdu cette première épouse. Donc là, il a une deuxième épouse. On peut pas dire une seconde parce qu'il en aura plus tard, vous verrez, une troisième. Une deuxième épouse qui s'appelle Nadejda Alilouyeva. Et c'est elle qui va... Alors, il faut imaginer une jeune femme soviétique, si je puis dire. Elle est tout à fait dans l'esprit de l'époque. Elle a les cheveux assez courts, avec des reflets roux. Elle a ce côté un peu, presque un peu garçon manqué, qu'on peut voir dans un certain nombre des affiches et des tableaux du réalisme soviétique, hein, du réalisme socialiste. Elle a ses cheveux coupés très courts à la dernière mode, nous dit Victor Alexandrov. Elle se voulait une femme moderne et émancipée. En cachette de son mari, elle bavardait des soirées entières chez ses cousins Ali Youyev ou chez d'autres membres des jeunesses communistes comme elle, originaire de Tiflis. Ali Youyeva, c'est difficile à dire hein, ça, elle souhaitait une démocratisation profonde du parti. Vous m'avez bien entendu, quand on est l'épouse de Joseph Staline, vous avouerez que ça ne manque pas de sel. Elle se rattachait de plus en plus ouvertement au groupe des quatre, Sapronov, Smirnov, Brodnis et Bogoulavski, qui sont un peu les maîtres à penser de la jeune génération. En jargon moderne, c'était ce que l'on appellera dans le cadre du Parti communiste de l'Union soviétique des révisionnistes. Vous voyez que c'est une figure intéressante. Alors, certes, elle est la mère de Svetlana, mais ça n'est pas elle qui va véritablement l'élever. Elle a un frère, Svetlana, qui a 5 ans de plus qu'elle, qui s'appelle Vassili. Et elle a un demi-frère qui est encore un peu plus âgé. Il a 19 ans, quand je dis un peu, il est carrément beaucoup plus âgé. Il a 19 ans de plus. C'est Yakov, que tout le monde appelle Yasha. Lui, il est le fils de la première épouse. Et il va être assez proche, d'ailleurs, ce grand frère, ce demi-frère. Il est assez proche d'elle. Il va avoir tendance à la protéger contre les colères de son père. Le moins qu'on puisse dire est que c'est un personnage difficile, Staline. Je ne pense pas révéler un grand secret en disant ça cet après-midi, évidemment. Il fait peur, hein. Il fait partie de ces gens dont le simple nom ne peut pas être prononcé sans un léger frisson. Alors, je vous dis que ce n'est pas vraiment la mère, c'est pas vraiment Nadejda qui a élevé sa fille, puisqu'il y a une nounou. C'est elle qui va jouer un rôle absolument important. La nounou va élever les deux plus jeunes enfants, hein, Vassili et Svetlana. Nous dit la biographe qui s'occupe du personnage dans cet ouvrage, Les enfants de dictateurs, elle nous dit qu'elle savait, cette nounou, qui dirigeait la famille et que c'est pour cela qu'elle obéissait en premier à mon père, au père de Svetlana. C'est grâce à elle, dit Svetlana elle-même, que j'ai su garder un certain sens de l'humour, car pour être franche, on ne pouvait pas dire que mes parents débordaient d'humour. Ben non, ça je confirme effectivement. Et je pense, dira-t-elle, que c'est ce qui m'a sauvé. On ne dira jamais assez quel rôle toutes ces nounous, d'une manière générale, et ces gouvernantes, etc., ont pu jouer dans l'éducation de ces enfants qui ont l'incroyable malchance de naître fils et fille de dictateurs. Vous imaginez, quel dictateur? On est en train de parler de Staline. Vous imaginez, le bourreau, l'un des grands bourreaux du XXe siècle, évidemment. Alors, la mère ne vit pas très longtemps, Nadejda, puisque le 9 novembre 1932, elle va finir par se tirer une balle dans la tête. Étant donné l'appartenance à la mouvance dont je vous parlais tout à l'heure, on ne sera pas surpris qu'elle est considérée comme invivable, le fait d'être toujours l'épouse de Staline, bien entendu. Officiellement, ça n'est pas du tout ce qu'on va dire. Il y a une version officielle qui d'ailleurs est celle qu'on sert aux enfants, et l'on dit qu'elle est morte d'une appendicite. En fait, elle est montée au début des cérémonies qui célébraient les 15 ans de la Révolution d'octobre. Elle est restée un peu plus longtemps que prévu dans sa chambre, et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'elle s'était donc tiré cette balle. À l'époque, Svetlana n'a que 6 ans. On murmure beaucoup, non seulement à l'intérieur du Parti communiste et dans l'enceinte du Kremlin, mais autant que faire se peut, un peu partout en Union soviétique, on sait qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Et vous imaginez pour cet enfant l'atmosphère très particulière qui a dû être celle de cette enfance. 6 ans, c'est l'âge de raison, n'est-ce pas? Enfin presque, 6-7 ans. Pour une petite fille comme ça, je pense qu'elle était déjà très consciente, très lucide, et d'autant plus qu'elle prouvera par la suite à quel point son tempérament la portait vers la lucidité. Et je pense qu'elle a vécu pleinement la douleur de ce mensonge qui s'insinue partout et qui ne veut même pas lui permettre de pleurer sa mère comme elle le devrait. Ça a dû être terrible, mais C'est un des aspects terribles d'une vie qui n'en manque pas, vous l'imaginez. Staline ne restera pas longtemps veuf. Il se remarie 2 ans plus tard avec une certaine Rosa Kaganovitch. Une grande brune, très intelligente, dit-on, assez brillante d'ailleurs, assez mondaine, si l'on peut dire, dans, mondaine à la soviétique, comme on peut l'être, vous imaginez, une apparatchik, si je puis dire. Elle est très attentionnée, elle va s'occuper des enfants du Grégorien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est, elle n'est pas une marâtre, mais elle est distante, elle s'en occupe que de loin, évidemment, et du reste, elle va bientôt divorcer. En 1947, elle demande à Staline le divorce. Et elle l'obtient, à mon avis, il devait être tout à fait consentant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'à tout moment, la priorité à l'info est d'actualité aujourd'hui sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire et à la vie de la fille de Staline, Svetlana.
Alors cette Svetlana nous réserve quelques surprises, vous allez voir, c'est un grand tempérament. Elle est élevée, ça il faut le dire, les enfants de Staline sont élevés à l'école publique. Mais vous me direz, ça jusque-là, ça paraît assez logique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas élevés au Kremlin avec un précepteur, etc. Ils vont vraiment à l'école. Alors vous imaginez que les petits enfants qui sont là dans cette classe ne doivent pas être à peu près n'importe qui. On est quand même, tout ça est très encadré. On est bien dans le cadre de l'espèce de nomenclatura, comme on dira un petit peu plus tard. Mais en tout cas, elle va à l'école comme tout le monde, si je puis dire. Elle n'a pas de privilèges apparents. Elle adore l'aller. Alors, la sécurité, en revanche, est très présente et sans doute très pesante. Elle adore la lecture. Elle est une bonne élève, nettement plus intellectuelle, disons-le, que son grand frère Vassili, qui lui n'est pas formidable. Il va pas faire de grandes études. On l'envoie à l'armée où il va devenir quand même pilote, entre parenthèses, comme quoi ça aide d'être le fils de Staline à l'époque stalinienne. Sa sœur raconte que l'armée lui a appris à boire. Et Lana Parchina, qui a écrit le chapitre consacré à Svetlana dans Enfants de dictateur, nous dit « À 30 ans, il est déjà très marqué, son visage a changé, il est bouffi et vieilli, il n'arrive plus à tenir une conversation, ses accès de violence se multiplient, bon sang ne saurait mentir, ça c'est moi qui l'ajoute, même ses enfants ont peur de lui, surtout quand il les poursuit avec sa chashka. » Sa chashka, c'est une espèce d'arme cosaque qui ressemble à un sabre. Je vous ai dit qu'elle avait 2 frères, Svetlana, un demi-frère qui lui est nettement plus âgé, Yasha. Lui sera fait prisonnier par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez qu'il devient une sorte de trophée, évidemment. Aux mains de Göring, ce bonhomme devient, c'est extraordinaire, il est le fils, vous imaginez, le fils de Staline. Alors on va le traîner un peu partout, on va le montrer, l'exhiber un peu comme un animal de foire, bien entendu. Les nazis vont proposer à Staline un échange de prisonniers, mais Staline va refuser. Son fils en meurt, si je puis dire. Comment meurt-il? Certains disent qu'il se serait suicidé en se jetant contre une, comment appelle-t-on ça? Vous savez, les clôtures électriques, là, les clôtures barbelées électriques, et qu'il aurait été électrocuté de cette façon. D'autres disent qu'il a carrément été, purement et simplement, été éliminé par les Allemands. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, et ça, sa sœur le disait, elle l'a dit à plusieurs journalistes bien plus tard, s'il avait été libéré, il aurait été en camp. En Union soviétique, comme tous ces prisonniers qui étaient passés avant par les camps allemands. Donc, de toute façon, son sort était scellé. Lana Parchina nous dit également « Svetlana a hérité du caractère de son père, autoritaire, dur, têtu, dur avec elle-même et bien entendu avec les autres. Elle est à peine majeure lorsqu'elle apprend déjà à conduire. » Ça, ce sera une de ses fiertés. D'ailleurs, elle le dira beaucoup, là aussi, dans les interviews, parce que vous savez qu'à une époque, c'était la mode d'aller interviewer Svetlana Staline au moment où elle est passée à l'Ouest. Et elle dira, mais mon père ne savait pas conduire, moi je savais. Il y avait une espèce de jalousie de la part de... Enfin, quand je dis une jalousie, Staline ne supportait pas que ses proches sachent faire des choses dont lui était incapable de faire. Et notamment, il ne va pas emmener sa fille à la conférence de Yalta, vous savez, la célèbre conférence où c'est... Dit-on, c'est un peu plus complexe que ça, partager le monde en février 1945, alors que Churchill, alors que Roosevelt avaient emmené leurs enfants. Mais Staline n'emmène pas sa fille parce qu'elle parlait couramment anglais et que ça aurait été ennuyeux de voir que sa fille parlait anglais alors que lui-même n'en touchait pas un mot. En 1942, Svetlana a rencontré l'amour par l'intermédiaire de son frère Vassili, qui fréquentait pas mal le milieu artistique et notamment celui du cinéma, qui à l'époque se confond largement avec celui de la propagande soviétique. Tout ça n'est qu'une sorte de grand milieu. Elle rencontre un célèbre réalisateur qui s'appelle Alexei Kapler, qui a 39 ans. Je me souviens, dira Svetlana, il dansait à merveille. J'adorais ses films. Bref, je suis tombée amoureuse. Vous savez, vous tombez amoureuse de n'importe qui quand vous avez 17 ans. Le premier qui se tient devant vous, vous l'aimez. C'est ce que j'ai fait. Oui, peut-être. Enfin, c'est sa façon de voir. Je pense encore une fois que ce tempérament assez fougueux, pour ne pas dire impérieux, qui était le sien, a dû jouer un rôle dans cet amour un peu rapide. Alors, pendant un temps, Alexei a tenté de résister un peu à ses avances, parce qu'il se disait que fréquenter la fille ludique de Staline lui apporterait sans doute que des ennuis. Mais il ne va pas tenir longtemps et il va payer. Il est envoyé au goulag pendant 11 ans. Officiellement, il a été accusé d'espionnage au profit des Anglais. Ben tiens, évidemment. Svetlana ne parvient pourtant pas à en vouloir à son père, nous révèle Lana Parchina. Elle lui donne presque raison. Ça, c'est intéressant parce qu'on a longtemps dit ou voulu faire croire que Svetlana Staline avait tendance à avoir un certain recul vis-à-vis de son père. Si on lit bien entre les lignes, si on écoute vraiment ce qu'elle dit, elle a tendance plutôt généralement à l'excuser. Alors elle va faire un mariage, néanmoins, en 1945, elle épouse Grigori Morozov, qui est juif, qui n'a pas servi dans l'armée pendant la guerre. Staline n'est pas du tout favorable à ce mariage, il refuse de rencontrer son gendre, il fallait quand même un certain courage pour aller épouser la fille Staline dans ces conditions-là. Ils vont avoir un fils qui s'appelle, je vous le donne en mille, Joseph, et ils divorceront en 1947. Entre parenthèses, Staline ne voudra pas voir non plus son petit-fils. Il se trouve qu'à deux reprises, un peu, j'allais dire presque par hasard ou par le fait des circonstances, il va être amené à le croiser à deux reprises, mais c'est tout. Vers qui Svetlana se tourne-t-elle pour lui trouver un nouveau mari? Eh bien, vers son père, bien entendu. Peut-être n'a-t-elle pas tellement le choix. Il lui présente Yuri Zhdanov, qui est le fils de son bras droit, le célèbre Zhdanov, Andrei Zhdanov. Ils se marient en 1949 et la même année, elle donne naissance à une fille, Yekaterina. Elle divorce aussitôt. Mes ex-maris, dira plus tard Svetlana, étaient tout à fait ordinaires. À chacun de mes divorces, j'ai été heureuse parce que je reprenais ma liberté. On songe à la belle citation de Monterland, « Béni qui m'abandonne, il me rend à moi-même ». C'était peut-être un peu sa philosophie dans la vie, à Svetlana, dont on peut comprendre qu'elle a été au demeurant assez perturbée, bien entendu. 1953, ça vous connaissez la date, 5 mars 1953, c'est la mort de Joseph Staline. C'est cette mort extraordinaire, digne de tous les films et de toutes les pièces de théâtre, dans sa datcha, avec tous les gens autour qui n'osent s'approcher du cadavre du mort, comme s'il allait encore les envoyer au goulag. Et aussitôt, les enfants deviennent des cibles. Vassili est arrêté, on lui fait une espèce de procès, il est envoyé dans un camp de travail et on lui fait avouer toutes sortes de crimes qu'il n'a évidemment pas commis. On l'accuse de propagande anti-soviétique, enfin bon, on connaît ça. C'est-à-dire que le régime est censé changer, mais les méthodes, elles, sont globalement toujours les mêmes. Il va rester quand même 8 ans en camp de travail. Il meurt un an après sa libération, en 1962. La version officielle dit qu'il est mort d'alcoolisme, mais vous savez bien que lorsqu'on parle d'histoire soviétique, il est très important de bien préciser que ça, c'est la version officielle. Quant à Svetlana, elle change de nom. Elle prend le nom de sa mère, hein, Aliyeva, comme ça m'oblige à le dire une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'elle change de nom? Officiellement, c'est pour n'être pas la dernière à porter le nom de Staline. Vous me permettrez de penser qu'elle avait sans doute d'autres bonnes raisons de procéder ainsi. Alors, elle va commencer une relation avec un diplomate indien, un diplomate communiste, qui s'appelle Singh, Brajesh Singh. Ils vivent ensemble jusqu'à la mort de Brajesh Singh. Elle le rencontre en 63 et c'est en 66 qu'il meurt. Et en 66, elle veut rapporter les cendres de son mari en Inde. Elle obtient une autorisation spéciale des autorités soviétiques et ça, c'est l'occasion qu'elle attendait depuis longtemps, bien entendu. Elle en profite dès qu'elle est à New Delhi pour aller demander l'asile politique à l'ambassade américaine. Mais au passage, ce qu'on aurait tendance à oublier quand même, c'est qu'elle laisse à Moscou Joseph, donc le premier fils, rappelez-vous, qui maintenant a 20 ans, et Yekaterina qui en a 16. Elle racontera plus tard dans 20 lettres à un ami « Je ne pus rien dire aux enfants à cause de l'escorte officielle. Très vite, ils disparurent derrière une vitre. Je partais dans un autre pays, autant dire une autre planète pour moi. » Ah, ça c'est tout à fait ce qui va se passer. Et ce qui est bien sûr passionnant pour nous, c'est qu'une fois passée dans l'autre camp, à l'ouest, alors elle reviendra Svetlana, hein, elle reviendra notamment en 1984, elle sera autorisée par Gorbatchev à ressortir ensuite en 1986, on va revenir sur tout ça. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où elle est devenue en quelque sorte occidentale, elle a dit, elle a raconté toutes sortes de choses. Et ça, c'était passionnant pour les journalistes de l'époque. Ce qui ne l'empêchait pas, lorsqu'elle rentrait en Union soviétique, de dire des horreurs sur l'Occident. Mais, disait-elle, on m'oblige à le faire, je n'avais pas le choix. Elle était bien la fille de son père. Bonjour Claude Quettel, bonjour Jean-Christophe Brizard, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons revenir dans un instant en votre compagnie sur le cas de Svetlana Staline, mais nous allons évoquer un certain nombre d'autres enfants de dictateurs, bien entendu.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des enfants de dictateurs avec vos invités. Claude Quettel, qui est historien, et Jean-Christophe Brizard, grand reporter. Tous deux ont dirigé l'ouvrage « Enfants de dictateurs » aux éditions First Histoire.
Oui, nous verrons tout à l'heure comment est né cet ouvrage. C'est vrai que c'est une très belle et très intéressante idée. Alors, elle arrive dans le New Jersey à Princeton en 1967, en avril 67, Svetlana. Et voilà ce qu'elle dit. « Quand je suis arrivée aux États-Unis, tout le monde espérait que je fasse des déclarations sur mon père et que je dénonce le communisme. Or, je n'aimais aucun de ces deux pays, ça au moins ça a le mérite d'être clair, avec leur gouvernement fier de leur armée et de leur pouvoir, dira-t-elle. » Autrement dit, et c'est ce que je laissais entendre tout à l'heure, elle avait plutôt tendance, on peut dire ça, Jean-Christophe Brizard, elle avait tendance à renvoyer dos à dos américains et soviétiques.
Oui, en fait, il faut essayer de se remettre à l'époque où il y a vraiment deux blocs qui se font face, qui ne communiquent plus. On est à chaque fois au bord d'une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique, et que la fille de Staline, qui incarne cette Union soviétique, se retrouve à passer de l'autre côté.
Ah oui, c'est une prise de guerre un peu.
C'est énorme, c'est même incroyable. Et en fait, Svetlana, ce que m'avait dit Lana Parchina, qui l'avait rencontrée, n'aspirait qu'à la tranquillité. Elle voulait être en paix. Elle ne voulait pas être manipulée comme elle avait pu l'être par un régime, celui de son père, maintenant par les États-Unis. Donc elle aspirait juste à vivre tranquillement pour elle-même.
Elle va écrire un ouvrage très important, donc, ces 20 lettres à un ami, qui d'ailleurs vont être un énorme best-seller, Claude Quettel. Ça a été le livre de l'année.
De toute façon, quand on est la fille de Staline,
oui, bien sûr.
Et qu'on débarque aux États-Unis en pleine guerre froide, ça ne pouvait être qu'un succès. Mais c'est vrai, c'est important d'y insister, qu'elle a fait preuve quand même d'une très grande force de caractère en refusant de se laisser instrumentaliser par les États-Unis. Et ça nous paraît à nous évident. Mais à l'époque, elle est quand même accueillie par les États-Unis. Elle aurait très bien pu être conduite à la frontière, reconduite en URSS. Donc elle a fait preuve d'une immense force de caractère. Et ça fait un peu partie de sa malédiction, parce qu'effectivement, elle n'aurait été bien nulle part. Et elle dit elle-même qu'elle n'approuvait pas plus le régime qu'elle avait quitté que celui qu'elle découvrait.
Et elle parle de son père comme d'un homme, je la cite là, un simple rustre, très cruel, et elle ajoute « C'est comme si mon père était au centre d'un cercle noir. Quiconque s'aventurait à l'intérieur de ce cercle disparaissait ou périssait. »
Oui, elle a dit une chose terrible que j'ai notée. Elle a dit « Trois générations doivent payer pour les péchés de leur père. »
Oui.
J'ai trouvé que c'était très fort.
J'imagine qu'il y a des psychanalystes qui nous écoutent et qui confirmeront ça.
Oui, je pense.
Ces histoires de névrose familiale.
Oui, dans la catégorie des enfants de dictateurs maudits, je crois qu'elle tient une bonne place.
Alors, elle a refait des mariages après. Elle n'arrêtait pas de se marier, de se remarier.
Oui, elle se mariait beaucoup. Hein,
c'est
vrai.
Toujours dans la psychanalyse, est-ce que, elle l'a dit plusieurs fois, c'était très difficile pour elle d'avoir un mari qu'elle pouvait respecter, qu'elle pouvait aimer, quand on a eu un père comme Staline qui était si présent, si étouffant. Comment accepter la comparaison? Et c'est ce qui a été son drame, c'est que c'était la fille adorée de son père pendant toute son enfance. Elle lui a toujours trouvé des circonstances atténuantes pour tous les drames dont on l'a rendu responsable, Staline. À partir de là, elle a eu du mal à avoir une vie affective, amoureuse, stable.
Elle vivait, je disais, dans le New Jersey. Elle a vécu dans plein d'endroits. Mais enfin bon, c'était l'essentiel. Et elle est morte sous le nom de Lana Peters. Elle est morte il y a peu de temps. Je me rappelle d'ailleurs que nous étions déjà ici même, puisque j'en avais dit un mot à l'époque au micro, au cœur de l'histoire. Elle est morte le 22 novembre 2011 d'un cancer. En tant que Lana Peters, ce dernier mariage a été important pour elle. Et sa belle-mère, notamment, était tout à fait incroyable, je crois.
Elle venait d'arriver aux États-Unis. Elle a été captée par sa belle-mère qui espérait beaucoup de cette prise de Svetlana, qui l'a mariée à un très grand architecte qui n'était pas très bon en affaires. Donc même si Svetlana a gagné beaucoup d'argent avec ses deux ouvrages, ses deux best-sellers, à cause de son mari, elle a tout perdu. Et c'est pour ça qu'elle a fini sa vie, quand même, dans une situation économique très inconfortable.
Elle n'a pas eu de chance avec ses maris successifs. Oui, vous me direz que ce n'est pas ni la première ni la dernière femme.
N'est-ce pas ?
Elle n'a pas avoir de chance avec ses maris.
Il ne faut pas forcément être fille de
dictateur. Mais elle a vraiment eu peu de chance, puisque ce dernier, qui aurait pu être un peu bon, l'Amérique au sens mythique du mot, a été plutôt encore plus mauvais que les autres. Quoi.
Mais alors, Claude Quettel, quel père Staline était-il au fond ? On a l'impression qu'il se moquait totalement de ses enfants, de ses petits-enfants, n'en parlons pas, il ne veut même pas les rencontrer, enfin, c'est incroyable.
Le problème, c'est que Staline, au quotidien, on n'en sait pas grand-chose. Alors, quand on parle d'homme de cabinet, c'est l'homme de cabinet par excellence, tout entier livré à la politique, pas seulement pendant la Grande Guerre patriotique. Et donc, déjà, un père suroccupé ne s'occupe pas toujours bien de ses enfants. Bon, Staline, même s'il a eu pour sa fille peut-être une tendresse un peu plus grande, comme beaucoup de dictateurs avaient un peu un faible pour Fifi, notamment, je pense, à Mussolini et Franco. En fait, Staline n'a pas eu du tout le temps de s'occuper de Svetlana. Svetlana a été en déficit à la fois d'un père et d'une mère qui se suicide. Et ne parlons pas en plus de ce dictateur rouge qui était Staline.
Alors, puisque vous parlez de Mussolini, parlons de sa fille Edda Mussolini, personnage là encore marqué par le destin. C'est quand même incroyable de naître la fille de Mussolini. C'est peut-être un peu moins grave que d'être celle de Staline, quoique, hein, tout est discutable.
C'est tout aussi grave, en fait. C'est grave, grave. Les malheureux, les malheureux enfants n'y sont pour rien. Svetlana ne peut être en aucun cas rendue responsable des crimes staliniens. Edda, c'est un peu différent. Edda a été une grande militante, a été même une figure emblématique du fascisme. Par contre, elles ont en commun de s'être opposé au père, mais pas opposé au père d'un point de vue doctrinal, opposé au père simplement du point de vue de l'autorité. Le père avait beau avoir quand même des faiblesses, que ce soit Staline ou Mussolini, pour leur fille, elles ne pouvaient quand même pas tout faire. Et du coup, elles ont eu un peu... Alors, Edda va avoir une vie de patachon, comme on dit, pour simplement embêter papa. Mais papa, c'est Mussolini.
Ah oui, voilà, ça change tout. Évidemment, c'est pas tout à fait banal.
Il y a l'épisode extraordinaire de son premier flirt, une espèce de petit chef de gare, qui est aussitôt muté au fond de la Sicile. Bon, voilà.
Mussolini, dans l'intimité, était un homme très doux, presque un peu timide, et que c'était sa femme qui portait la culotte, si
ah
je
oui,
puis
Rachel,
dire.
Ah oui, Rachel, oui, à coup sûr.
Ouais.
À coup sûr.
Alors, si je vous dis ça,
c'est Rachel. Oui.
Je vous propose d'écouter une archive Europe 1. On a interviewé, c'était, je ne sais pas, je vais vous dire la date dans un instant si je retrouve ma petite fiche. C'était en 1973. On interview Vittorio Mussolini, qui donc est le fils de Benito. Il parle de son père et de sa mère, et voilà ce que ça donne.
Vittorio Mussolini, comment vit votre mère en ce moment ?
Avec une pension de l'État.
Combien ?
150 000 lire, il fait 1000 francs, comme la veuve de chef de l'État. Et ma mère, souvent, critique des attitudes de mon père, parce que ma mère entend que mon père était trop généreux ou très bon avec personne de petite confiance.
De petite confiance.
Ma mère est une femme de caractère très fort, peut-être plus fort que mon père. Dans la maison, le vrai dictateur était ma mère, non mon père.
Et votre mère était plus ferme que votre père.
Oui.
Pourtant, on ne garde pas de Mussolini l'image d'un homme particulièrement faible.
dans la maison, très faible. Il y a deux figurations de Mussolini publiques et de Mussolini en privé. En privé, avec la famille ou avec les personnes qui visitaient Palazzo Venezia, c'est une personne très agréable.
Votre mère reçoit beaucoup de visiteurs?
Oui, parce que ma mère vit peut-être à 8 kilomètres de Predappio. En Predappio, il y a la chapelle de la famille. Et tous les visiteurs qui vont à Predappio, après ou avant, passent de la ville.
Et elle reçoit tous les gens qui viennent?
Elle reçoit, elle donne un autographe, une photo, un livre.
Et ces gens-là sont des gens d'obédience fasciste ou
Oh, il y a des curiosités, il y a des nostalgies.
C'est quand même un témoignage très intéressant. C'était en 1973, donc il semblerait que Mussolini, à la maison, il était un peu plus doux, si je puis dire, Claude Cattel.
Il filait certainement plus doux, comme d'ailleurs beaucoup de d'hommes qui tambourinent la poitrine sur l'agora. Plus les choses vont mal, plus la guerre s'avance et plus Mussolini se détruit et plus Rachel, du coup, prend du pouvoir qu'elle avait déjà au départ.
Alors évidemment, la fille de Mussolini, Edda, c'est l'épouse du Conciano. Hein, c'est elle qui avait épousé.
La recherche d'un époux pour Edda, ça a été très difficile parce que c'était une fille très indépendante, encore bien plus indépendante que Svetlana. Et finalement, oui, on lui a trouvé le comte Ciano qui va jouer un rôle évidemment décisif dans la prise de participation de l'Italie dans le nazisme et la guerre. D'ailleurs, Edda va être une figure emblématique. Elle va être une espèce de représentante officielle auprès de Goebbels, auprès de Göring. La fille de Göring va s'appeler Edda. Donc, elle va jouer un rôle très, très important dans le fascisme.
Elle est morte quand, assez tard, en fait, non? Quand est-ce qu'elle meurt?
Oh, elle meurt à 4, plus de 80 ans.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'elle meurt en 95.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Elle va se sortir très très bien de la guerre. En fait, elle a gardé des propriétés à Rome, à Capri. Elle continue à fréquenter les milieux néo-fascistes. Et donc, elle va avoir une vieillesse tout à fait paisible.
Alors, la fille de Mao, la fille de Franco, etc. Nous avons encore un certain nombre d'enfants de dictateurs à vous proposer.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ce sont les enfants du dictateur qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités, Claude Cattel, historien, et Jean-Christophe Brézard, grand reporter. Tous deux ont dirigé l'ouvrage « Enfants de dictateur » aux éditions First Histoire.
Comment est venue, Jean-Christophe Brézard, l'idée de cet ouvrage, de faire cette collection d'enfants de dictateurs?
En fait, c'est une idée qui m'est venue il y a 8 ans à peu près. J'étais en reportage avec un photographe slovène qui était un bon ami. Et à un moment, il m'a expliqué qu'il était très proche du fils de Tito. Alors j'étais très surpris parce que...
Mais tiqué, là.
Oui, parce que bêtement, je m'étais dit que la plupart des enfants de ces dictateurs qui avaient été renversés ou avaient mal fini avaient subi les mêmes purges que leur père et donc avaient disparu.
Bah oui, mais il n'y a pas de raison particulière en effet. Donc,
Et en fait, non. Et il m'expliquait que ce fils de Tito était à l'époque l'ambassadeur en Croatie et... Bon, il vivait très bien et je me suis mis à chercher sur d'autres grands dictateurs du XXe siècle. Et après des semaines et des semaines de recherche, j'ai retrouvé deux filles de Mao. Et là, j'étais encore plus surpris. Ces filles sont toujours là. Actuellement, aujourd'hui, elles sont toujours vivantes. Il y en a une qui a 78 ans, l'autre qui a 74 ans. Elles vivent avec une petite pension de l'État. Et on les ressort dès qu'il y a une inauguration d'une nouvelle statue de Mao. Ou, en tout cas, elles sont là pour protéger la statue, l'image du père.
Et Dieu sait pourtant qu'elles ne l'aiment pas, leur père.
C'est paradoxal. Elles ont souffert de ce père.
Oui, enfin, voilà, c'est ça plutôt.
Elles en ont terriblement souffert. Il les a détruites. On peut dire psychologiquement, même physiquement, parce qu'à la fin, elles sont tombées malades, anorexiques, bonnes à être internées. Et malgré tout, elle continue de défendre la mémoire de ce père.
Ce qu'elles disent, c'est que Néanmoins, il n'était pas, j'allais dire, il n'était pas rigolo. C'est très, très, c'est une petite litote. Parce qu'en fait, il était même carrément inhumain comme personnage.
Bah, on peut dire qu'il n'avait pas du tout de sentiment paternel. Peut-être qu'il en a eu un petit peu pour la petite dernière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Mao a eu une dizaine d'enfants. Et pendant la guerre contre Chiang Kai-shek, il n'a pas hésité à abandonner deux de ses nouveau-nés. Parce qu'il l'encombrait pendant la guerre. Donc il les cédait à des paysans, au passage. Et en se disant, peut-être qu'un jour on ira les récupérer. Puis si on ne les récupère pas, tant pis.
Ouais. Et quelle éducation a-t-il donné à ses filles ?
Alors, il y a deux cas. Donc, y en a une qui s'appelle Limine, l'autre Lina. Pour Limine, il ne les a pas eues avec les mêmes femmes. Limine, il l'avait envoyée grandir en Union soviétique. Donc il ne s'en était pas du tout occupé à tel point que quand elle est revenue, elle ne parlait même pas chinois. Elle parlait russe. Et Mao ne parlant pas russe, ça n'aide pas pour les relations père-fille. Sa dernière fille, Lina, c'est différent. Il a même cru pouvoir faire d'elle un petit peu celle qui pourrait lui succéder. Il a essayé, il s'est dit, elle, il y a quelque chose. Politiquement, je vais peut-être la former. Et en fait, la pauvre, elle a complètement craqué pendant la révolution culturelle. Elle était devenue odieuse. Elle a confondu autorité et autoritarisme. Elle a été presque pire que son père et elle a fini en hôpital psychiatrique.
Oui, mais parce que quelque part, on a un peu l'impression que la figure, la statue du commandeur de son père l'obligeait à une certaine rigidité, en fait. Comme si elle voulait se montrer digne. Hein, bah, il y a cette idée.
Surtout que pendant leur enfance, il leur expliquait qu'il fallait... L'expression chinoise, c'est manger amer. C'est-à-dire vivre des difficultés, vivre les mêmes difficultés que le peuple, voire même plus parce que c'était les filles de Mao. Par exemple, Mao avait dit il fallait, il y a la ration annuelle en céréales pour le peuple, c'est, pour un Chinois, c'est 150 kilos. Et ben pour vous, ça sera 110 kilos.
Ah oui.
Donc à chaque fois, c'était plus. Il fallait faire plus, être encore plus dur. Alors que Mao, lui, en termes de nourriture, il ne manquait jamais de rien.
Oui, d'ailleurs, il suffit de voir sa taille et son embonpoint, généralement, ça parle tout seul. Quelle conclusion en tirez-vous sur le destin de ces enfants-là ? Est-ce que vous pensez que pour eux, c'est presque une impossibilité de vivre qui les prend dès le berceau ? Tous ces enfants de dictateurs ?
Je pense, pour l'avoir vu sur les 17-18 cas qu'on a traités dans le livre, c'est que je pourrais les classer en trois catégories. Il y a la catégorie de ceux qui ont souffert, qui ont été eux-mêmes victimes au même titre que n'importe quel opposant ou personne membre du peuple qui était dirigé par le dictateur, qui ont été victimes de ce père. D'autres qui ont été manipulés et psychologiquement complètement transformés. Je pense notamment aux enfants de Saddam Hussein ou aux fils Assad ou aux enfants Kadhafi. Par exemple, Saddam Hussein, quand il a pris le pouvoir, il a pris ses deux adolescents de garçons et les a obligés à assister aux séances de torture.
Exécution.
À tel point que très vite, ils sont devenus pires que le père. Et Saddam Hussein avait peur de ses fils. Il y a cette catégorie-là. Et la dernière catégorie, mais sont très très rares, c'est ceux qui sont rentrés en opposition, qui ont le courage de s'opposer, de fuir pour survivre et d'être des opposants.
Il y a une figure, oui, Claude Quetel.
Je dirais qu'ils ont en commun de ne pas avoir eu tellement la chance d'être des enfants de dictateurs.
Ah ben ça, oui, ça, évidemment. Il y a une figure que l'on croise régulièrement à Paris, qui est la petite fille de Franco, qui se trouve être la mère du prince Louis de Bourbon. Est-ce que la famille de Franco se distingue des autres familles de dictateurs, Claude Quetel ?
La famille de Franco a bien géré l'après-franquisme, mais elle a bien géré l'après-franquisme parce qu'elle était dans un milieu d'affairistes qui n'était ni encouragé mais ni condamné par Franco. Mais surtout, bon, l'après-franquisme n'a rien à voir après avec l'après-stalinisme. L'après-mussolinisme, il y a eu quand même une adéquation très grande du régime. Et aujourd'hui encore, il suffit d'aller en Espagne pour constater que Franco, même des fois, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent même pas en prononcer le mot dictateur à côté du mot Franco. Donc la famille de Franco a bien prospéré là-dessus, hein, Jean-Christophe.
Bah, pour beaucoup, même pour les enfants, la fille de, et la petite fille de Franco, Franco était un...
La fille, c'est Carmen Sita, celle
oui, c'est ça. Carmen Sita et Carmen, sa mère, qui est toujours vivante. À aucun moment, il est question de critiquer l'œuvre du père. C'était un homme politique de son époque, certes assez autoritaire, mais c'était à leurs yeux, c'était nécessaire, c'était un mal nécessaire. Et en Espagne, encore aujourd'hui, on peut être franquiste ouvertement.
Carmen Cita était un peu présentée, même par le régime, comme une sorte de modèle de jeune fille. C'était ça un peu l'idée.
Elle était utilisée par le régime présenter une image honorable d'une famille idéale à l'espagnole, et elle s'y prêtait volontiers.
Ce sont des filles à chaque fois, vous avez remarqué.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant.
Oui.
Est-ce que les fils ont été supprimés ou est-ce que le destin n'a pas voulu que tous ces dictateurs aient de fils? Enfin, ils en ont eu quelques-uns, mais c'est vrai que la plupart sont des filles.
Toute analyse est hasardeuse.
Oui, sans doute.
Mais elles sont fortes. Elles sont plus fortes que les garçons. Ça, c'est sûr.
Et ce sont des filles qui ont évidemment une relation tellement particulière avec leur père. Vous allez me dire toutes les filles du monde, peut-être, mais celle-ci, tout particulièrement.
Bah, ne serait-ce que si on parle de leur vie amoureuse, souvent le père intervenait, faisait fuir les prétendants,
Mussolini, en fait,
les faisait disparaître. Même la fille de Castro, Alina. Quand elle a expliqué à son père qu'elle était tombée amoureuse d'un diplomate mexicain, le père est allé voir le diplomate, lui a dit « Bon, bah, tu t'en vas très vite ou tu disparais, bel et bien. » Et donc il est rentré au Mexique, dardard, et la fille, la pauvre Alina, elle a fait une sacrée dépression après ça.
Alors chacun des chapitres du livre est rédigé par un auteur différent. On a Bartolomé Benassar, justement, qui parle de l'Espagne. Vous vous êtes occupé d'un certain nombre de sujets. Là, en l'occurrence, le clan Castro, si je puis dire, il est traité par Jacobo Machover. On se rend compte que, décidément, Fidel Castro n'est pas beaucoup plus sympathique. Il est même encore moins sympathique dans le privé qu'en public, en fait. Hein.
Bah, en fait, il considère qu'il est le père de tous les Cubains.
Le macho absolu.
Et qu'à partir de là, il ne peut pas donner sa préférence à ses propres enfants. Il en a eu une dizaine de plusieurs femmes, parce que c'est vrai que c'est un macho et il adore ça. Il le présente comme ça. C'est l'homme à femme qui ne s'attache à personne, vraiment. Et surtout pas à ses enfants. Et pourtant, il en a eu. Alors, il y a le cas de son premier fils, Fidelito. C'est rocambolesque, parce qu'il n'est pas encore le dirigeant de Cuba, que son épouse de l'époque demande le divorce, elle obtient la garde de l'enfant, Fidel enlève l'enfant parce qu'il veut le garder avec lui, parce que c'est l'homme, sa femme le lui reprend, et au final il trouve un terrain d'entente pour qu'il puisse le garder. Mais ce Fidelito, si au début Fidel a cru en lui pour être aussi son successeur, il s'est rendu compte que bon, il était assez médiocre. Et il l'a gardé près de lui en résidence surveillée toute sa vie. Encore aujourd'hui, en résidence surveillée.
Lui, c'était l'aîné.
C'était l'aîné.
Et tous les autres avaient un prénom qui commençait par un A.
Oui, c'est ce que disait Jacobo. Alors, sa théorie, c'est que Fidel est un admirateur d'Alexandre le Grand.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est sa théorie. Et que donc, tous ses enfants, tous les prénoms de ses enfants commencent par un A.
Comme Alina, donc qui lui ressemblait tellement d'une certaine manière. Il y a encore un certain nombre de personnes vivantes parmi ces enfants de dictateurs, en fait.
Oui, bah les plus forts, je trouve, ce sont les filles Mao, parce que c'est quand même l'un des plus grands dictateurs
du XXe siècle.
Et qui a causé des millions et des millions de morts.
Mais il faut le dire d'ailleurs, parce que comme presque à chaque fois, nous ne faisons pas très souvent des émissions d'ailleurs sur les dictateurs, mais à chaque fois que je le fais, je reçois par la suite tout un courrier en me disant « mais vous n'avez pas dit ». Alors évidemment, ce sont des évidences, mais certaines évidences méritent qu'on les explicite. Évidemment que les gens dont nous parlons, en tout cas pour la plupart, sont de terribles meurtriers, ce sont des criminels historiques, ils ont du sang sur les mains. Et dans le cas de Mao, plus encore que les autres. Lui, c'est absolument...
Je pense que c'est le champion.
C'est le champion.
Absolu.
C'est le champion de toute catégorie. Comment expliquer que ces hommes n'aient pas voulu former des successeurs, en quelque sorte, Claude Quettel? Alors, peut-être par le fait que souvent ce sont des filles. Vous me direz, ça ne facilitait peut-être pas. Mais tout de même, on pourrait imaginer que ces dictateurs veuillent se survivre, en quelque sorte. Ça a même été quand même l'objectif d'un certain nombre de grands hommes d'État. Pourquoi est-ce que eux paraissent condamnés à mourir avec eux-mêmes, si je puis dire?
Alors, c'est une question même assez difficile, parce que... Est-ce que la dictature, par essence, peut être héréditaire? Il n'y a guère qu'en Corée du Nord qu'on a inventé le communisme despotique héréditaire. Il n'y a pas d'autres exemples. Et à partir du moment où, d'ailleurs, imaginez un Staline, imaginez l'hypertrophie du moi d'un Staline, l'hypertrophie du moi d'un Mao, comment est-ce que des gens comme ça vont pouvoir concevoir que leur propre rejeton deviendrait un autre même dans le pouvoir politique. Je crois qu'au contraire, ils ont vraiment très très envie de les en écarter. Et donc, je crois que ça explique le héréditaire, même le castrisme, le communisme castriste. Comment est-ce qu'il pourrait être héréditaire? Alors, vous me direz, c'est le frère. Oui, mais ce n'est pas de l'hérédité, le frère. C'est...
Enfin, Raoul,
et c'est même, ce n'est même pas son frère.
Ça ne sort pas de la famille. Et puis, d'une
oui,
manière,
mais ce n'est pas l'enfant de dictateur ne peut pas donner un dictateur.
Il y a
essence.
Un aspect qu'on n'a pas vraiment évoqué, c'est la question des enfants naturels. Parce que là, on ne parle que d'enfants reconnus officiels, mais il y a eu aussi des enfants naturels qui traînent ici et là, évidemment.
Bah, notamment Fidel Castro, lui, il en a eu un certain nombre. Mais dans sa grande mansuétude, Alina, par exemple, est une fille naturelle. Mais elle n'a appris qu'à ses 10 ans, que l'homme qu'elle voyait à la télévision régulièrement et qui de temps en temps venait visiter sa mère à la maison, bah, c'était son père. Et c'était un choc terrible pour lui.
Il y a un personnage qui n'est pas dans votre livre, ça a été ma première surprise pour tout vous dire, c'est Hitler. Nous avons vu, je sais que nos auditeurs ont vu eux aussi comme moi ce documentaire il y a quelque temps à la télévision, sur le fils prétendu, ou qui se prétendait en tout cas, le fils proclamé d'Adolf Hitler, Jean-Marie Loret, qui était français en l'occurrence. Vous êtes très dubitatif, Claude Quetel.
Plus que dubitatif.
Vous n'y croyez pas du tout?
Non.
Bon.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le livre.
Ben moi, sinon, vous pensez bien qu'on aurait sauté sur un fils de Hitler.
Sous la direction de Jean-Christophe Brizard et Claude Quetel, Enfant de dictateur, c'est publié chez First Histoire. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Louise. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle nous demande de revenir sur l'origine de certains termes désignant la couleur de la robe des chevaux.
Alors, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas un temps fou, mais bon, les chevaux pis, ça, j'ai pas besoin d'expliciter. Je pense que ça parle tout seul. Les chevaux alezans, c'est-à-dire dans les tons fauve, marron, à roux, mais sans aucun poil noir, eh bien, ça vient de l'arabe du mot al-hisan, qui veut dire le cheval, ou de al-hasan, le beau, d'ailleurs, plus probablement. Le mot Rouen, qui est à l'origine au départ c'était un gène qui donne un mélange de poils blancs sur une autre robe de couleur foncée, c'est joli d'ailleurs ces chevaux Rouen. Et puis le mot qui m'amuse, Isabelle. Pourquoi Isabelle? Eh bien parce que vous savez, c'est cette espèce de couleur un peu jaune, un peu sale d'une certaine manière, et on pense que c'est parce qu'Isabelle la catholique avait fait le vœu au siège de la ville de Grenade en 1491 de ne changer de chemise qu'à la fin du siège. Vous imaginez la couleur de la chemise à la fin. Il y a une autre Isabelle du même genre d'ailleurs, c'était Isabelle d'Espagne, qui aurait fait le même vœu, dit-on, en 1601 et qui aurait gardé sa chemise 3 ans.